nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Auteur, acteur, metteur en scène et directeur de troupe, Molière a usé de tous ses masques pour faire jaillir ce talent qui lui était propre, châtier les mœurs par le rire. Une maxime valable jusqu'au dernier jour de sa vie. Et c'est justement à ces derniers moments que nous allons nous intéresser pour évoquer le miroir entre le comédien et son dernier rôle, celui d'Argan dans Le Malade Imaginaire. Et pour en parler avec nous, Patrick Dandré nous a rejoint en studio. Patrick Dandré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de la littérature du XVIIe siècle français et de l'histoire de la mélancolie ancienne. Vous avez publié le cas Argan, Molière et la maladie imaginaire, édition Klingsic, ouvrage réédité et augmenté en 2006. Outre ce livre, vous avez publié une quinzaine d'essais, autant de travaux éditoriaux et une centaine d'articles qui portent notamment sur l'œuvre de Molière et ses rapports avec la pensée médicale de son temps. J'ajoute enfin que vous êtes membre de la Société royale du Canada. Patrick Dandré, question que l'on a dû vous poser maintes et maintes fois. Dans Le Malade Imaginaire, Molière joue-t-il son propre rôle ?
Alors, on va répondre oui et non. Molière joue d'abord son propre personnage, ce qui est à la fois autre chose et en même temps extrêmement significatif. S'il y a un moment où cette rencontre, qui est extraordinaire, entre un écrivain, un comédien et un personnage, se produit avec intensité, c'est le moment effectivement du Malade Imaginaire, puisqu'on sait qu'à la quatrième représentation, le 17 février, 1673, Molière meurt, pas exactement en scène, il a eu la décence d'aller mourir chez lui, on était dans un siècle où les gens étaient polis, on ne mourait pas comme ça en public, ou en tout cas pas dans un rôle, mais il y a malgré tout eu, selon ses biographes, si on les croit, et il n'y a pas de raison de ne pas les croire, à la fin de la représentation, une toux difficile, un crachement de sang, Molière a caché cela sous une sorte de rictus. Il était alors dans la partie de divertissement de la pièce, le divertissement final, où il était déguisé en médecin, où le personnage du malade imaginaire est transformé en médecin imaginaire. Il faut croire qu'il ne l'a pas supporté. Il n'aimait pas beaucoup les médecins. Et donc, la maladie l'a pris à ce moment-là. Alors, était-il déjà malade avant ? On l'a toujours pensé. Un de ses biographes récents tente à imaginer que peut-être pas, peut-être qu'on a exagéré, peut-être avait-il simplement une toux, une bronchite, sur le moment. Enfin, j'aurais tendance à penser qu'il était malade depuis longtemps. Et donc, il rentre chez lui et il meurt. Alors ça, c'est une rencontre extraordinaire, parce que eût-il été comme Racine simplement un poète, il aurait écrit le rôle du personnage d'Argan, bon, il aurait écrit le rôle, puis un autre l'aurait incarné. Eût-il été un comédien, un pur comédien, comme ceux de sa troupe, il aurait joué ce personnage, ça aurait déjà été assez extraordinaire de mourir dans le rôle d'un malade imaginaire, mais ça aurait été tout de même un autre qui eût eu la responsabilité d'avoir créé le rôle. Mais que ce soit le même homme, et ça, il n'y a que Shakespeare pour faire la même chose, le même homme qui conçoit ce personnage et qui le conçoit peut-être depuis son fauteuil de malade, pour ensuite le jouer et, dans une sorte d'ordalie considérable, luttant contre sa propre mort pour jouer, contre sa propre maladie pour jouer le faux malade qui se porte bien, être vaincu par la mort à la quatrième représentation, quelque chose qui est extraordinaire, qui est presque de l'ordre de l'œuvre d'art. Certains disent ce n'est qu'un mythe, il n'était pas vraiment malade. Je dis si c'est un mythe, c'est tellement beau qu'il faut que ce soit vrai. C'est cela la littérature, vous savez, c'est donner réalité aux fables.
Alors, vous êtes intervenu à la journée du livre de l'Académie nationale de médecine qui s'intitulait « L'œuvre ultime et la médecine ». Les auditeurs de Canal Académie retrouveront votre conférence sur notre site. Est-ce que, de la même manière que l'on parle d'œuvre ultime pour les peintres, pour les musiciens et aussi pour les écrivains, la maladie a-t-elle conditionné Molière pour écrire une telle pièce ?
Alors, c'est à supposer, oui. Et la rencontre que nous a ménagée Jacques-Louis Binet est une chose merveilleuse parce que c'est un thème extraordinaire. Il fallait un grand médecin qui est en même temps un grand amateur d'art et un grand connaisseur de l'art, puisqu'il a professé à l'école du Louvre. Il fallait quelqu'un de cette, je dirais, de cet humanisme un peu typique de la Renaissance pour faire se rencontrer ainsi des médecins, des spécialistes de l'œuvre littéraire et des spécialistes de l'œuvre artistique autour de ce thème qui est quand même un thème fabuleux. C'est comment la création peut se nouer à la disparition. C'est-à-dire que la disparition du personnage créateur et en même temps une création qui jaillit au moment de cette disparition. Alors, comment ça s'articule? Est-ce qu'entre les deux il y a une continuité? Est-ce qu'entre les deux il y a une contradiction? Est-ce qu'entre les deux il y a une sorte de superposition? Et la réponse que je donnerai, enfin assez globalement, c'est qu'à mon sens, c'est une hypothèse, le rôle qu'a assigné Molière à son personnage, c'est d'être le bouc émissaire d'une maladie dont la médecine de son temps, révérence étant faite à la médecine moderne, ne réussissait pas à le guérir. Le rôle de bouc émissaire qu'il a assigné donc à ce rôle pour absorber ce mal dont il ne pouvait se dégager et s'obliger en quelque sorte par, je dirais, une nécessité d'honnêteté esthétique, une nécessité de morale de la scène, s'obliger à paraître bien portant, alors que peut-être il ne l'était pas. En tout cas, s'il a fini comme il a fini, il y a beaucoup à supposer qu'il en est mort. Hein. Alors de quoi est-il mort, allez-vous me dire? Excusez-moi, je pose les questions à votre place, mais c'est l'emportement du sujet. De quoi est-il mort? J'ai tendance à penser qu'il est mort un peu comme Mozart, on ne sait pas trop de quoi, mais sans doute d'une surenchère de travaux, d'un accablement de soucis, de projets, de nécessités. On sait qu'il était plus ou moins, on nous en parle souvent, atteint du poumon. Alors, vous savez, il avait une fluxion. La fluxion, ça veut dire à cette époque-là beaucoup de choses. Ça va en gros du rhume de cerveau à la tuberculose. Alors, je crois que le spectre est large, n'est-ce pas? Entre les deux, on peut trouver peut-être aussi les allergies. Et l'hypothèse, si tant est que les diagnostics rétrospectifs aient un sens, l'hypothèse la plus probable serait qu'il est mort d'une rupture d'anévrisme due à l'effort qu'il a fait pour tousser. On pourrait expectorer. Alors, expectorer, est-ce qu'il s'agissait d'une maladie tuberculeuse, comme on dit parfois? Je n'en sais rien. Mais le personnage d'Argan a été conçu vraisemblablement durant une période difficile de son existence, une période durant laquelle il est le plus probable qu'il se sentait valétudinaire. Et il y a quelque chose d'un peu... Oh, il y a du panache, je dirais, hein, c'est caractéristique de son siècle aussi. Il y a du panache à avoir décidé de jouer un personnage plein de forme, plein de santé, et qui se croit faussement malade, au moment où lui-même, effectivement, devait être dans son corps. On le sait maigre, on le sait un peu en difficulté de déplacement. Enfin, il avait certes beaucoup d'élan et d'allant, mais un an et demi avant, les fourberies de Scapin l'ont vraiment très fatigué. Dans la comédie suivante, la comtesse d'Escarbagnas, il ne prend pas de rôle. C'est très rare, hein, je crois que c'est le seul cas. Dans toutes les pièces qu'il jouait, il prenait un rôle. On sait qu'il avait été malade en 1665, en 1667, qu'il avait arrêté pendant 6 mois de jouer, qu'il était prêt d'être mis dans la bière, dit quelqu'un. Donc, il y a quand même des éléments. Harpagon, quand il le joue, dit qu'il est accablé par une fluxion, une toux, qui indique... Puis, il n'est pas tout jeune, il a plus de 50 ans à cette époque-là, ce n'est pas la prime jeunesse. Tout ça fait, je crois, qu'il y a autour de lui un sentiment qu'il ne se porte pas bien, oui. Alors, il y a eu un pamphlet écrit en 71 qui s'appelle « Elomir hypocondre » et qui le présente effectivement comme un malade, un hypocondriaque, mais au sens ancien du terme, donc un peu fou d'une maladie qu'on ne sait pas très bien qualifier, si elle est vraie, si elle est fausse, s'il croit, s'il se croit malade sans l'être. Et il se peut que le malade imaginaire soit aussi une réponse à ce pamphlet, hein, une manière de se moquer. Puis c'est en même temps une façon, je dirais, assez complexe de conjuguer les rapports entre lui, sa personne, donc, son personnage et son rôle. Et c'est dans ce triangle que se joue toute l'affaire.
Alors on a bien compris, l'hypocondrie est utilisée comme un aspect comique, mais est-ce que ces rôles permettent aussi d'exorciser la mort pour Molière, de se moquer d'elle pour mieux l'affronter?
Bien sûr, il y a une espèce de risque, si vous voulez, qui se joue, et je dirais comme un combat, hein, entre les trois rôles, hein, le rôle du poète-interprète, le rôle du malade bien portant, et puis le personnage, ce personnage étrange qui se croit malade et qui veut à toute force l'être. Pourquoi? Parce que on a l'impression que des ambivalences se jouent, des tensions au sein même de ces relations. Entre l'homme et le personnage, la maladie risque de faire intrusion et de menacer la crédibilité de l'interprétation. Si Molière paraît trop ce qu'il est, c'est-à-dire pas forcément bien portant, le personnage d'Argan est faussé. Il lui faut donc subir de la part de son personnage une cure de jouvence. C'est un personnage à vertu prophylactique. Ça consiste à se guérir à travers un personnage. On se croirait dans la psychanalyse la plus moderne, c'est pas du tout le cas, hein. Mais il y a un besoin, si vous voulez, un pari. Le pari de rendre crédible son interprétation et de la sorte d'exorciser sa maladie. Donc, première relation compliquée entre l'homme et le personnage. Vous avez une seconde relation qui se complique. Dans la relation entre l'homme et son corps malade, le personnage d'Argan permet à Molière de se dire malade. Et de fait, sur scène, il y a un personnage, le frère du malade imaginaire, qui va parler de Molière, qui va dire que Molière est malade, mais qu'il est trop malade pour supporter les médicaments. C'est pour ça qu'il n'a pas recours à la médecine, parce que déjà, quand on est malade, c'est beaucoup, mais si en plus il faut supporter les médecines, alors là, c'est impossible parce que ça va vous tuer. Donc, le personnage d'Argan permet à Molière de se savoir et de se dire, de se reconnaître malade en quelque sorte. Mais pour découvrir que s'il parvient malgré tout à jouer son rôle et à le jouer de façon crédible, il n'est pas si malade qu'il le pensait. Si bien que dans la relation avec lui-même, on a l'impression qu'une démystification dramatique de l'état valétudinaire est organisée chaque soir, enfin chaque après-midi, on jouait à 4 heures, pour permettre à Molière de vaincre, si vous voulez, la maladie. Et après tout, avec ce raisonnement, puisque la médecine est une chimère, car tout le texte ne dit que ça, la médecine n'est que chimérique, la maladie ne serait-elle pas qu'une illusion ? D'où ce raisonnement, ce postulat qui est terrifiant et que j'ai osé prononcer devant l'Académie de médecine, la plupart des hommes ne meurent pas de leur maladie, mais de leur médecin. Alors évidemment, c'est assez facile, il faut dire que c'est assez réconfortant aussi, c'est optimiste, vous voyez, puisqu'il suffit, pour quand on est malade, pour guérir, de ne pas se soigner. Alors je ne suis pas très sûr que l'expérience vérifie la chose, mais il est certain que dans ce jusqu'au boutisme, il y a quand même un cri pathétique, quoi, quelque chose, je ne veux pas jouer sur le pathos, mais enfin, il y a quelque chose qui signale un homme abordant courageusement une période durant laquelle... Allez, Ayakta Est, le destin se joue. Et puis, il y a une troisième modulation, excusez-moi, je termine par là, du schéma, c'est que l'individu réellement malade peut perturber les relations entre le personnage et sa maladie imaginaire. C'est-à-dire qu'entre Argan, le personnage, et sa maladie imaginaire, ben, Molière risque de rendre véritable ce qui n'était qu'une maladie imaginaire. Et c'est ce qui s'est passé la quatrième représentation. Et j'ai l'impression que le défi relevé les trois premières fois, ben, il n'a pas pu l'être la quatrième. Et c'est donc au quatrième coup que les murailles sont tombées, si j'ose dire, hein, et que la maladie a vaincu et qu'il a réussi à achever ce qu'écrit son biographe Lagrange, celui qui tenait le registre de la troupe. Et je vous cite, le 17 février, jour de la quatrième représentation du malade imaginaire, il fut si fort travaillé de sa fluxion qu'il eut de la peine à jouer son rôle. Il ne l'acheva qu'en souffrant beaucoup, et le public connut aisément qu'il n'était rien moins que ce qu'il avait voulu jouer. Voilà l'articulation, hein, du malade imaginaire qui devient malade réel.
C'était justement la question que je voulais vous poser sur ce Molière qui est malade et qui doit jouer quelqu'un qui est faussement malade et qui se joue lui-même de sa propre maladie.
Bien sûr. C'est un paradoxe tout à fait frappant et en même temps, je crois que c'est une relation émotionnelle, une relation presque théâtrale d'un homme avec lui-même, hein, dans son rapport à lui-même, qui fait que chaque représentation est un risque. Alors vous me direz, au théâtre, c'est ainsi. Chaque représentation est un risque. Et tout comédien qui commence, s'il a le trac, c'est en fonction de ce risque. J'ai envie de penser que le trac, c'est métaphysique. Le trac, ce n'est pas seulement « oh, j'ai peur parce qu'ils sont nombreux, que je suis tout seul, que je peux me tromper ou avoir un trou ». Non, c'est que chaque fois que je joue, j'engage l'ordre du simulacre. Et il peut se produire quelque chose qui fait que le simulacre se déchire, que la toile se déchire. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le trou de mémoire, ça c'est le plus fréquent. Ça peut être aussi le comédien qui meurt en scène, ça se rencontre parfois. Ça peut être n'importe quel phénomène, mais il y a toujours une menace. Et dans le cas du malade imaginaire, la menace a été doublée en quelque sorte par la menace de la mort. Et à partir du moment où Molière pouvait avoir l'air malade, tout de la pièce pouvait sonner faux. Par exemple, quand un personnage vient dire au malade imaginaire « Oh, comme vous vous portez bien, quel bon visage vous avez !» que l'autre se met en colère. Si Molière a un mauvais visage, le comique est complètement rompu. Lorsqu'il s'agit de brailler, de rouspéter contre sa servante et qu'elle lui dit « Vous n'êtes pas si malade qu'une pareille puisque vous avez tant de voix. » Si la vigueur n'est plus là, si le malade s'embarrasse, si le comédien s'embarrasse dans sa toux, l'effet comique est complètement rompu. Alors il fallait une parade à cela. Et j'ai l'impression que s'il y a tellement de vindictes dans cette pièce contre la médecine, c'est qu'en fait, par une sorte de compensation intérieure, par un jeu de dames ou d'échecs intimes dans lequel on a même peine à entrer, on n'ose pas entrer par discrétion, Molière a concentré, au moment où il écrivait cette pièce, toute son angoisse et toute sa prévention, sa réprobation, tout son refus sur un personnage qui est le substitut du mal, qui est un parasite, comme la maladie est un parasite, c'est-à-dire sur le médecin. Le médecin, fâcheux, imposteur, sot dévot de son art, le médecin est dans tous les cas responsable de la maladie et de la mort. Je crois que les médecins vous diront que beaucoup de patients le pensent un peu, ou s'ils ne le pensent pas, c'est subliminaire. Mais chez Molière, ça apparaît, d'où cette formule dont je vous parle tout à l'heure, c'est notre impatience, notre inquiétude qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. On meurt de médecine et on ne meurt pas de maladie. Malade, il faut au contraire se laisser aller à la nature. Et le médecin étant ainsi le fauteur de tous les maux, la pièce est une espèce d'étrange mélange d'un extrême optimisme, parce que finalement, si on y croit à la pièce, il n'y aura plus jamais de malade. Il y a suffisamment de médecins pour qu'il n'y ait plus de malade. Et puis en même temps, il y a un débat de l'homme envers lui-même, du comédien envers lui-même, qui se sent confusément coupable d'imposture de jouer le rôle qu'il joue et s'oblige à le jouer par nécessité intérieure. Ce qui me semble révéler cela, c'est qu'à la fin, il finit en médecin lui-même. Alors, quelle rencontre hein ? C'est le serpent qui se mord la queue, n'est-ce pas ? Molière devenu médecin et mourant dans ce rôle, tous les pamphlétaires de l'époque ont souligné la chose. Les uns s'en sont moqués, les autres en ont pleuré. Et nous, ça nous a donné l'occasion d'une conférence.
Diriez-vous que Molière est dans le simple divertissement ou dans le cynisme ?
Ah non, non, le cynisme, pas du tout. Je crois que c'est un débat très intérieur, très complexe, très riche. C'est un débat, je dirais, estimable, un peu comme est estimable la mort de n'importe quelle personne qui s'est battue contre une maladie grave, vous voyez, et que la médiation de l'œuvre d'art, et c'est là que le sujet du colloque jouait à plein, la médiation de l'œuvre d'art est ici à la fois essentielle, vraiment au sens fort, totalement intégrée, intériorisée, et qu'elle est en même temps une leçon pour tout le monde, c'est-à-dire universelle, parce que c'est véritablement ici un rôle vital, je n'ai pas envie de dire métaphysique, mais en tout cas un rôle sur les fins dernières de l'homme que l'œuvre d'art est en train d'assumer sous nos yeux. Et alors qui, miracle du théâtre, se rejoue chaque fois que quelqu'un incarne le malade imaginaire, quoi. Je rêve de voir un jour un comédien jouer le malade imaginaire et en mourir. Mais ça, vous ne le répétez pas, nous ne le dirons à personne parce que ce n'est pas très charitable.
Je le disais au début de cette émission, vous êtes spécialiste de la littérature du XVIIe siècle français et de l'histoire de la mélancolie ancienne. Mmh. Est-ce que Molière a puisé dans une forme de mélancolie pour la production de certaines de ses pièces ?
Oui, vous savez, la mélancolie, c'est une maladie à cette époque-là. C'est le fait d'avoir trop de bile noire, trop d'humeur noire. Donc, il y a effectivement une constante, c'est que tous les malades de Molière sont malades de mélancolie, que ce soit les jeunes femmes ou les vieux barbons. On s'aperçoit que les diagnostics sont toujours les mêmes. Alors là, il faudrait entrer dans toute une histoire, une anthropologie de la mélancolie dans le monde ancien. Disons qu'elle est le revers de la face solaire de l'homme. Elle est ce que j'ai appelé quelque part une éclipse du plexus solaire. Elle est donc ce qui empêche la vie de se vivre. Et c'est un peu ce qui se passe avec le problème d'Argan. C'est un personnage qui s'interdit de vivre. Qu'est-ce que c'est un malade imaginaire ? Sinon quelqu'un qui se calfeutre. Et on se calfeutre contre quoi ? Lui, il dit contre la maladie. Il n'est pas malade. Alors il se calfeutre contre quoi ? Ben, contre la vie. Vous savez, c'est la plus grande des maladies, sans doute, de refuser de vivre. Il paraît qu'on en meurt.
Dernière question, Patrick Dandré. Est-ce que l'on a des exemples de Molière bis ? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs, interprètes qui ont vécu la même fin que Molière ?
Alors non, mais il y a un cas que l'on pourrait rapprocher de celui de Molière. Et d'ailleurs, c'est une des suggestions que je ferais si j'avais à la faire sur ce dont il est mort et sur la maladie dont il souffrait. Je ne devrais pas le dire parce que alors là, je m'engage complètement et puis qu'avait en pensé le corps médical. Je penserais volontiers que son mal était plutôt qu'une tuberculose, tout simplement une très forte allergie peut-être, et que la toux dont il était, semble-t-il, attaqué, alors qu'on nous dit que la constitution de son corps était particulièrement robuste, était peut-être tout simplement de cet ordre. Et donc, si c'est véritablement cela, vous comprenez sans doute déjà vers quoi je m'oriente, je pense qu'il y en a un autre qui a vécu quelque chose de cet ordre, c'est Marcel Proust. Il n'était pas comédien, c'est vrai. Mais il avait, dans la manière dont il constituait sa vie, entièrement au service de son œuvre. Dans cette chambre où il s'enfermait, où il ne vivait que de nuit, et où il vivait à l'écart de tout pour recréer un monde bourré d'odeurs, bourré de fleurs, enfin tout ce qu'il ne pouvait pas supporter. Je crois qu'il y a dans ce rapport si étrange, et dans cette espèce, finalement, disons-le, d'ascèse, qui fut celle de Proust à la fin, quelque chose de peut-être similaire, et dans le rôle qu'il attribuait à l'œuvre d'art, à l'écriture, à ce qu'il créait, quelque chose de similaire à ce que j'essaie de construire sur le rapport de Molière avec le malade imaginaire. Mais enfin, évidemment, c'est dans de toutes autres proportions, dans un tout autre contexte, mais puisque nous jouons au rapprochement, c'est peut-être à celui-là que je penserai.
Eh bien, merci Patrick Dandré. Alors, j'indique à nos auditeurs qu'on peut vous retrouver sur le site de Canal Academy. Nous retransmettons votre conférence réalisée à la journée du livre médical du 17 septembre 2010, journée organisée par l'Académie nationale de médecine. Et puis, j'indique un site internet, le vôtre, qui s'appelle tout simplement www.patrickdandré.com. Et puis, je crois que vous organisez aussi des conférences régulièrement. Donc, on retrouve la liste de vos conférences et des dates sur votre site. Merci et à bientôt, je l'espère, pour de prochaines émissions. Merci.
Merci à vous.